Vous écoutez Radio Suisse Romande, espace 2, deuxième volet maintenant de cette thématique autour de la manière d'exprimer aujourd'hui la signification existentielle de la résurrection. Je vous propose de rencontrer un théologien et un sociologue. Tous deux sont des antichés de la résurrection et ils voient dans la résilience, vous savez, cette capacité qu'ont certaines personnes de se relever de malheurs tout à fait effroyables, ils voient dans la résilience un champ fécond pour dire la portée existentielle de cet extraordinaire qui traverse la vie de Jésus. Daniel Marguerat est professeur de Nouveau Testament de l'Université de Lausanne. Il compte parmi ces chrétiens attachés à la résurrection. Il l'exprime tout en montrant le lien étroit que l'on peut tisser entre résurrection et résilience. Après Daniel Marguerat, nous entendrons Stéphane Van Nistendal, un autre antiché de la résurrection. Il est sociologue, secrétaire au Bureau international catholique de l'enfance à Genève, le BICE. Pour lui, Jésus de Nazareth est à la fois, selon la terminologie d'un Boris Cyrulnik, tuteur de résilience et en même temps résilient.
Jésus-Christ possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas estimé qu'il devait chercher à se faire de force l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu semblable aux hommes, il a paru dans une situation d'homme. Il a accepté de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est plus important que tout autre nom, afin que par respect pour le nom de Jésus, tous les êtres qui se trouvent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, se mettent à genoux, et que tous proclament que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 2.
Daniel Marguerat, quelle est la place que vous réservez à la résurrection dans votre foi chrétienne?
Pour moi, la foi en la résurrection, c'est le début. C'est pas la fin, c'est le début. Je veux dire que je suis absolument pas engagé dans la foi si je ne m'adossais pas à une conviction qui est la résurrection. C'est pas pour moi un dernier chapitre des évangiles, c'est le premier. D'ailleurs, les évangiles ont été écrits à partir de la résurrection, hein, et non pas pour y aboutir.
Mais quand même, du point de vue concret, si on regarde un peu ces récits, qu'on regarde un peu comment ils sont construits, on se rend compte que le témoignage à la résurrection est extraordinairement fragile, somme toute. C'est peut-être, il faudrait dire, le point faible de la foi chrétienne.
Tout à fait, vous avez raison. C'est une base fragile, mais la foi chrétienne a une base fragile. Et elle a une base fragile parce qu'elle repose sur la conviction que de la mort, Dieu peut faire surgir la vie. Mais là encore, c'est une confession, au fond, dans les possibilités créatrices qu'a Dieu dans l'existence de chacun. Mais c'est fragile, c'est tout à fait contestable. Et en même temps, ça a la puissance de l'amour qui surgit entre deux personnes. Il n'y a rien de plus fragile et il n'y a rien de plus puissant.
À votre avis, cette foi en la résurrection, cette expérience qu'ont faite les premiers chrétiens de ce crucifié qui se manifeste à nouveau après avoir connu la mort, en quoi elle révèle quelque chose de tout à fait particulier sur la personne de Dieu, sur le visage de Dieu?
Pour moi, la résurrection, c'est la signature du Dieu auquel je crois, c'est la signature du Dieu de Jésus-Christ. Et c'est là qu'à mon avis, Dieu se distingue clairement du Dieu de Mohammed. Parce que croire à la résurrection, pour moi, c'est une conviction de base, parce que c'est, au fond, me défasciner de la fatalité. Je veux dire, je suis constamment tenté de prendre ce qui arrive dans l'histoire et dans mon histoire pour des faits, au fond, incontournables et dégageant, au fond, en eux-mêmes, une conséquence qui est une conséquence lourde, une conséquence pénible ou une conséquence de mort. D'ailleurs, on dit toujours, allez vous étonner, celui-ci, il a vécu ça, il a été violenté dans son enfance, il a connu des échecs répétés à l'école. Comment voulez-vous qu'il puisse faire sa trace, qu'il puisse réussir? Il est, au fond, si vous voulez, abattu par la vie. Et ça, je crois que c'est une espèce de foi dans la fatalité. Or, le Dieu de Jésus-Christ, c'est précisément celui qui place au cœur de mon regard sur la vie cette conviction qu'il n'y a pas d'échec qui ne soit pas surmontable, qu'il n'y a pas de souffrance qui ne puisse pas être, j'hésite à dire cicatrisée, en tout cas apprivoisée, qu'il n'y a pas de mort qui puisse pas accoucher de la vie. Ça n'est pas le Dieu de la fatalité. C'est pas le Dieu qui m'invite à me courber devant lui et à accepter ses verdicts, ô certes combien mérités. Là, j'arrête les guillemets parce que je dis au fond par là de quelle manière je refuse cette image de Dieu dans lequel, justement, je ne reconnais pas le Dieu de Jésus.
Mais concrètement, Daniel Marguerat, la foi chrétienne très longtemps a constitué une sorte d'obéissance nécessaire à un Dieu tout-puissant. Et on ne voit pas là le Dieu de Jésus-Christ que vous développez.
C'est vrai que à certains moments de large période du christianisme, oui, parce qu'il y a eu entre l'image d'un Dieu tout-puissant et puis le besoin de pouvoir de l'Église, il y a eu effectivement des connivences absolument troubles. Mais moi, je crois au Dieu tout-puissant. Mais je dis que ce Dieu tout-puissant, il se révèle dans la fragilité d'un corps crucifié. Je suis appelé à consentir au fait que le tout-pouvoir de Dieu, la toute-puissance du Créateur, se donne à percevoir dans les failles de l'existence, dans les creux d'une histoire. Voilà ce à quoi je suis appelé à consentir. Alors c'est vrai que on le perçoit un peu plus aujourd'hui, pas étonnant peut-être, parce que on en revient justement, on revient des langages de pouvoir, et que c'est une dogmatique justifiant une prise de pouvoir de l'Église dans la société, nous est maintenant suspecte. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est que justement, et ça on peut quand même le dire, il y a toujours eu un message d'espérance dans l'Église, quelle que soit la manière dont l'institution s'est comprise, mais il y a toujours eu ce message d'espérance qui voulait précisément mettre en avant le caractère protestataire de Jésus. J'entends par là, dans l'activité qu'a eu Jésus, par exemple dans l'activité de guérison, ou bien lorsque Jésus dit « heureux les pauvres », qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire la maladie qui est la vôtre, le handicap, la limite, l'infirmité, qu'elle soit celle de, je dirais, du corps ou de l'âme, ou bien les conditions économiques dans lesquelles vous vivez, ne rendent pas compte de ce que vous êtes. Ne signe pas le bulletin dérisoire de votre valeur. Au contraire, il y a une valeur beaucoup plus forte que Dieu vous accorde, il y a un accueil inconditionnel dont Dieu vous assure et qui peut structurer votre existence.
Il y a une thématique assez à la mode aujourd'hui, c'est celle de la résilience, de cette capacité que chacun aurait à rebondir malgré un destin tragique, un destin atroce. Et vous êtes très sensible à ça, vous discernez dans ce phénomène de résilience certains indices, certains signes de la résurrection.
Oui, je suis très intéressé par ce que Boris Cyrulnik dit de la résilience, puisque c'est lui qui a forgé le concept et qui l'a fait connaître. J'en ai discuté récemment avec lui, et ce qui me frappe, donc la résilience, c'est la possibilité que quelqu'un a de rebondir dans la vie. Hein. Qu'est-ce qui fait que le même malheur frappant l'un et l'autre, qu'est-ce qui fait que entre deux enfants qui naissent dans les favelas du Brésil, l'un s'en sort et l'autre pas? C'est l'excellente question que pose Cyrulnik. Sa réponse, la résilience, il dresse 5 critères qui font que quelqu'un s'en sort et pas l'autre. Celui qui m'intéresse, c'est le premier, dont Cyrulnik dit lui-même que c'est le principe cardinal. Il dit le principe cardinal, c'est l'acceptation inconditionnelle par autrui. Ça veut dire, pour pouvoir rebondir, il faut que au socle de votre existence, vous ayez été accepté inconditionnellement par quelqu'un, puisque on n'existe jamais que par l'autre. Ça n'est jamais moi qui détient ma possibilité d'être. J'existe par le regard de confiance, le regard d'amour, le regard qui invite à grandir, qui est le regard d'un autre. Et Cyril Nick dit, c'est une acceptation inconditionnelle qui, normalement, est celle des parents, mais il peut y avoir de substituts parentaux lorsque les parents n'offrent pas ce regard créateur à tous égards. Hein. Moi, je dis, c'est l'évangile, ça. C'est l'évangile. S'il n'y avait à garder qu'une chose de l'évangile, à le réduire à une ligne, eh bien, c'est ça, c'est que Dieu m'accepte inconditionnellement, et que parce qu'il m'accepte inconditionnellement, il est non pas du tout celui qui m'appelle à ronronner, mais celui qui me permet de grandir, et qui me permet justement de développer toutes les possibilités, les potentialités, tout ce qui demande à naître en moi. C'est celui vraiment qui est père, c'est-à-dire qui m'appelle à faire grandir en moi ce que la vie peut développer.
Et Boris Cyrulnik partage cette vision spirituelle, il perçoit aussi cette possibilité qu'il y ait au socle de l'existence de quelqu'un, non pas un autre, un parent, un ami, un oncle, une tante, mais Dieu.
Cyrulnik ne le dit pas, non. Non, il ne le dit pas. Pour lui, ce qu'il veut, c'est décrire le mécanisme. Et donc, il formalise ce mécanisme en énumérant 5 critères, dont celui-ci en premier. Il ne se prononce absolument pas sur le plan religieux. Je crois que c'est rattaché à son existence et en particulier son enfance d'enfant juif dans les camps. Mais voilà, je dirais non. L'affirmation théologique, c'est la mienne. Et c'est moi qui dis, mais au fond, fondamentalement, on touche là la racine même, le noyau, le cœur vivant de l'évangile. Ça, c'est mon affirmation. En pensant que cette acceptation qu'autrui fait, eh bien, c'est par excellence l'acceptation que l'autre, avec un grand A, fait de ma vie. Et que si je suis capable, moi, d'avoir sur d'autres, sur mes enfants, sur des étudiants, sur d'autres, ce regard qui fait grandir, qui invite à grandir, c'est parce que l'autre, Dieu, l'a eu sur moi. Relayé sûrement, oui. Relayé, bien entendu, par toutes sortes de médiations humaines que sont tous ceux qui m'ont aimé et qui ont fait de moi ce que je suis.
Et là, concrètement, quel lien avec la résurrection? Parce qu'on pourrait penser finalement qu'il y a là une thématique très proche de la justification par la foi, où on se sait accepté par Dieu. Quel est le lien à la résurrection dans cette dynamique de résilience?
Eh bien, ce lien, l'apôtre Paul le fait. Parce que l'apôtre Paul, à la fin de Romains 4, parle du Christ ressuscité pour notre justification. Qu'est-ce que ça veut dire, ressuscité pour notre justification? À un autre moment, d'ailleurs, Paul aussi dit en 1 Corinthiens 15 que si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vide, dit-il aux Corinthiens, vous êtes toujours dans vos péchés. Donc il fait le lien, c'est-à-dire pour Paul, la concrétisation ordinaire de Pâques, c'est le pardon des fautes, c'est le pardon des péchés. Pourquoi ? Parce que le pardon des fautes, le pardon des péchés, c'est cette affirmation que Dieu fait revenir de la vie là où nos fautes continuellement accumulent de la mort. Donc au moment où je reçois le pardon de Dieu, au moment où je m'adosse à cette conviction que Dieu m'accueille inconditionnellement, ou me justifie, pour utiliser un terme plus classique, je suis entraîné dans le courant qui est celui de la résurrection. Donc Paul, lui, fait ce lien, et c'est clair, pour Paul, la résurrection se monnaie au jour le jour dans l'affirmation du pardon.
Sometimes I feel like a motherless. Sometimes I feel just like a motherless child. Sometimes I feel just like a motherless child, alone away from a home.
Stéphane Danny Stendhal, en tant que sociologue et en même temps en tant que chrétien, qu'apporte la résurrection du Christ à votre réflexion sur la résilience ?
Il y a d'abord, avant même parler de résurrection, le personnage du Christ comme il apparaît avant sa mort et avant la résurrection.
Donc vous aimez vous-même dire que quelque part le Christ est le grand résilient ?
Oui, en quelque sorte, dans deux sens du terme, c'est-à-dire d'une part, il a donné l'exemple concret toujours pendant toute sa vie, en parole, en acte, comment redémarrer la vie qui semble être bloquée quelque part suite à un traumatisme, le paralysé, suite à une culpabilité ou d'autres choses. Et ça, Boris Cyrulnik, par exemple, dirait, là, il se comporte comme un tuteur de résilience. À mon avis, ça va plus loin parce que le Christ va quand même très en profondeur aussi des choses. Mais il y a un autre sens aussi. Et là intervient pleinement la mort et la résurrection de Jésus.
Donc là, c'est le sens concret du Christ victime lui-même du mal.
Dans sa mort, oui, c'est clair. Et précisément, qu'est-ce que on voit, sans très bien comprendre ce qui s'est passé exactement, je crois que même les exégètes sont toujours en discussion là-dessus, il y a quand même, selon les récits de l'Évangile, un Christ avec une vie, mais une vie qui ne semble pas tout à fait situé dans notre coordonnées de temps et d'espace, mais qui se manifeste quand même là-dedans, très clairement. Il ne faut pas trop vite, je crois, dire c'est la vie glorifiée du Christ, parce que ça nous induit vite en erreur. On commence à avoir une vie idéale, disons un monsieur idéal. Mais c'est dans la rencontre avec Thomas qui montre clairement ce que ça veut dire.
Donc là, concrètement, il s'agit d'un Christ qui est à la fois glorieux, mais en même temps qui porte les stigmates même de ce qu'il a enduré.
Voilà, et c'est ça qui est fascinant, parce que dans cette rencontre avec Thomas, il montre clairement que cette vie ne veut pas dire qu'on a simplement nié le passé, il n'y a rien, aucune blessure du passé qui est niée, mais qu'on peut croître néanmoins et développer une nouvelle vie à partir de ces blessures, ou en intégrant ces blessures plutôt. Ce qui est fascinant maintenant, c'est de voir que d'une part, le constat de la résilience dans la vie, c'est-à-dire, comme avec Tim Guénard, il y a quelque chose de très mauvais, de très mal qui se passe, il y a des souffrances indicibles, et néanmoins, la vie continue à se projeter. Il y a même parfois une transformation, c'est pas toujours le cas, du mal qui se transforme en bien. Et puis, il y a le Christ qui déjà vit toutes ces dynamiques pendant sa vie, c'est très présent dans les béatitudes et ailleurs, mais après sa mort, ça devient encore plus fort. C'est comme s'il dit, voilà ce qui peut arriver, il y a une dynamique de vie qui va s'accomplir au-delà de la mort, n'ayez pas peur. Maintenant, on peut pas dire que c'est du réalisme ou que c'est sûr, comme on peut dire que c'est sûr qu'on est en train de discuter ici devant le micro. Mais quand même, la moindre des choses que même un non-croyant peut-être peut dire, tiens, même si on ne sait pas trop bien ce que ça veut dire concrètement, cette résurrection, ce que Jésus montre là comme dynamique, c'est quand même d'une cohérence tout à fait étonnante avec la dynamique de la vie dont il a déjà témoigné avant sa mort.
Donc finalement là, on rejoindrait l'un des points centraux de la résilience, c'est le fait que rien n'est jamais définitivement complètement fichu. C'est donc une sorte de regard apposé sur la réalité, un regard teinté d'espérance.
J'aime bien cette question parce que normalement je mets deux choses ensemble. Ce que vous venez de dire là, rien n'est jamais totalement perdu, ça c'est le grand espoir de la résilience. Mais en même temps, je fais suivre, rien n'est jamais totalement gagné non plus. Ça, c'est le réalisme de la résilience. Mais maintenant que vous pouvez poser la question, et dans la perspective de la résurrection, peut-être on pourrait imaginer que après la mort et la résurrection, le deuxième volet tombe. Et il reste, rien n'est jamais totalement perdu. Et ce réalisme, c'est un réalisme d'avant notre mort, disons. Rien n'est jamais totalement gagné non plus. Et peut-être c'est la résurrection qui accomplit tout ça. C'est peut-être le grand espoir. Mais ça, c'est une idée qui me vient sur le coup maintenant dans l'interview.
Toi, le Christ, tu te charges de ce qui nous charge. Au point que, débarrassés de ce qui alourdit notre existence, nous reprenions à tout moment la marche légère de l'inquiétude vers la confiance, de l'ombre vers la clarté de l'eau vive, de notre volonté propre vers la vision du royaume qui vient. Alors, bien que nous osions à peine l'espérer, tu offres à chaque être humain d'être un reflet de ton visage. Frère Roger, Thésée.
Stéphane Van Stendhal, les théologiens, lorsqu'ils regardent la résurrection, lorsqu'ils y réfléchissent, ils mettent en avant qu'il y a quelque part une sorte de oui de Dieu extraordinaire qui est posé sur le Christ souffrant et sur ses souffrances. Est-ce que vous diriez à certains égards que cela peut aussi inspirer la personne qui réfléchit à la résilience?
Oui, mais évidemment, il faut être prudent là, parce que je crois qu'il ne faut pas trop vite édulcorer les souffrances. Mais c'est oui dans la mesure où, à mon avis, toute croissance d'une personne blessée ou pas blessée même, reste bloqué tant que on n'accepte pas le point de départ de cette croissance, qui fatalement est la situation dans laquelle on est, qu'elle soit bonne, mauvaise, tragique ou pas. Et donc, au départ de toute croissance, il y a la nécessité d'accepter la situation comme elle est, sinon on ne peut même pas partir. Je ne peux pas dire « je vais prendre le train de Genève à Lausanne, mais je ne veux surtout pas prendre ce train à Genève, je veux le prendre, disons, à Neuchâtel ». C'est pas le même voyage, disons. Si je me trouve à Genève, je dois quand même partir de Genève. Et dans ce sens, oui, c'est un oui à la souffrance, mais pas évidemment pour rester enfermé dans cette souffrance. La résilience, c'est tout le contraire, et à mon avis, la résurrection aussi, et la vie de Jésus aussi. C'est oui au point de départ, pour rendre la croissance possible, mais ensuite, on fait un pas en avant, et puis un autre pas, pour pouvoir développer autre chose après.
Lorsque l'on parle du ressuscité, Jésus le Christ comme le prince de la vie, on a aussi à l'esprit que quelque part c'est celui qui initie un pardon, et il le fait notamment à l'endroit d'un de ses disciples qu'il a trahi, l'apôtre Pierre. Alors en quoi est-ce que cette problématique-là du ressuscité prince de vie qui initie un pardon est aussi intéressante pour la résilience?
Un des grands blocages parmi d'autres, mais un des grands blocages à toute croissance de vie, c'est précisément le mal qui est fait et le pardon qui n'est pas donné, qui ne vient pas ou qui n'est pas accueilli. Et si on interprète le pardon non pas comme un sentiment, mais plutôt presque comme une intelligence de vie, ou une sagesse de vie, une volonté de rechercher de nouveau là où tout semble être bloqué, une ouverture sur la vie et la croissance, là, évidemment, c'est en ligne directe avec la résilience. D'ailleurs, j'ai fait une expérience extraordinaire à ce sujet dans un cours sur la résilience que je vais donner pour des intervenants de l'action humanitaire, souvent avec une expérience très lourde du terrain en ex-Yougoslavie au Rwanda. Et précisément, on avait commencé avec une introduction qui mentionnait brièvement quelque part au demeurant le pardon. Ces étudiants-là, qui avaient tous ou presque une lourde expérience du terrain, se sont accrochés à ce seul mot du pardon et ça occupait toute la place du cours. Et on a dû organiser une deuxième session pour continuer sur la résilience plus large. Pourquoi? Parce qu'à partir de leur expérience du pardon ou du non-pardon, de l'absence de pardon entre belligérants, ils s'étaient bien rendus compte de ce que ça signifie concrètement sur le terrain et comment on bloque toute la vie la, individuelle, communautaire, si ce pardon reste absent. On a ensemble cherché un éclairage autour du pardon, moi évidemment très inspiré parce que je sais de la foi chrétienne, sans le dire explicitement, et ils ont énormément apprécié, même en affirmant après que c'était si bien cet éclairage qu'il n'avait rien de religieux, mais à mon avis là ils avaient une fausse perception de la religion.
Il y a aussi une autre dimension qui peut être intéressante si on réfléchit à partir de la résurrection et qu'on essaie de regarder la résilience, c'est le fait que la résurrection, somme toute, positionne l'être humain dans un sens et lui donne un sens et une espérance. Et cela, ça vous inspire aussi en matière de résilience.
Oui, mais on pourrait développer d'énormes théories métaphysiques sur le sens de la vie. Et moi, par rapport à la résilience, qui reste quand même toujours très opérationnelle aussi, je me suis inspiré d'une parole d'un anthropologue américain que j'ai connu à l'époque à Chicago, Dan Scheinfeld, qui disait, je paraphrase un peu, qu'est-ce que c'est finalement le sens d'une vie? Et au lieu de définir ce que c'est le sens, il définissait comment le sens fonctionne dans beaucoup de vies. Il disait, au fond, on a le sentiment d'avoir un sens dans sa vie quand on a le sentiment que sa vie garde un lien positif avec la plus grande vie autour de nous. Je précise un peu, avec une petite blague, je me souviens d'un vieux missionnaire qui était en face d'un problème insoluble. Il avait beaucoup d'expérience de vie et puis il disait, écoutez, mon problème est très très grand dans mon petit monde, mais évidemment dans le grand monde c'est un petit problème. Donc il recadrait son problème et sa vie par rapport à la grande vie, en le recadrant dans un lien de confiance qui restait positif. Et il me semble que tant que les gens, nous tous, on a ce sentiment parfois confus, inconscient, mais que je garde un lien positif entre ma vie avec ses hauts, ses bas, tout ce qui arrive, et la grande vie autour de moi, j'ai le sentiment que ma vie a un sens. Là, évidemment, Jésus joue très fort parce que il rétablit toujours le sens, dans ce sens très opérationnel, ce lien qu'ont les gens avec la vie, c'est ça qu'il va chercher toujours en acte, en parole, quand il rencontre des gens, même quand il rencontre les gens dans leur culpabilité. Il y a cette merveilleuse histoire dans l'évangile de Jean avec la femme adultère, où on rencontre tellement de choses d'une dynamique spirituelle et de sens aussi. Tout d'abord, Jésus rencontre chacun dans cette scène exactement là où il se trouve, les gens qui se croient bien et donc qui pensent qu'ils ont le droit de liquider une autre vie au nom d'une morale, disons, qui a un peu perdu racine dans la vie. La femme qui ne justifie pas, dans le sens, il ne va pas dire, madame, vous avez très bien fait, continuez à vivre comme ça, il ne dit pas ça. Par contre, il indique clairement que c'était mal ce qu'il avait fait, mais il ne veut pas l'enfermer le reste de sa vie dans ce mal fait. Et donc, à chacun, pas seulement à la femme, mais aussi à tous ceux autour, il donne une chance de croissance dans la vie. Et donc, il rétablit en fait, pour chacun dans l'histoire, ce lien positif entre leur vie et la vie autour d'eux. Un lien qui était perdu pour toute personne dans cette histoire. Et dans ce sens, très opérationnel, il redonne sens à la vie de chacun.
Go to lead us.
Daniel Marguerat, spécialiste du Nouveau Testament, et Stéphane Van Istendaal, sociologue au BICE, le Bureau international catholique de l'enfance à Genève, viennent de décliner une dimension existentielle de la résurrection. Pour ceux que cela intéresse, Stéphane Van Istendaal va publier d'ici quelques jours ou quelques semaines un petit cahier intitulé « Le réalisme de la foi, résilience et spiritualité ». À l'écoute du propos qu'il vient de tenir, on peut imaginer le rôle que jouera la résurrection dans sa réflexion sur la résilience.